VOA Afrique,
le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 16 septembre 2016, en direct de Washington, Idrissa Sédoulia et Anne Albertson. Tout d'abord les titres.
Au Nigeria, plusieurs personnalités du précédent gouvernement devant la justice pour corruption présumée.
Au Tchad, paralysie de l'administration en raison du mot d'ordre de grève de deux syndicats.
La Libye a annoncé jeudi la reprise imminente des exportations après le retour au calme dans la région du croissant pétrolier.
Syrie, l'ONU espère profiter de la trêve pour distribuer aujourd'hui de l'aide humanitaire dans la ville d'Alep, ravagée par la guerre.
Et ne manquez pas notre segment quotidien sur la présidentielle américaine, sans oublier notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Plusieurs proches de l'ex-président du Nigeria, Goodluck Jonathan, sont visés par la justice dans le cadre d'une vaste campagne anticorruption lancée par son successeur, Muhammadu Buhari, arrivé au pouvoir en 2015. Des détails avec Arzuma Compaoré.
Plusieurs personnalités du précédent gouvernement sont poursuivies, y compris Wari Pamo Doudafa, qui a été conseiller spécial pour les affaires intérieures. Cet ancien bras droit de l'ex-président Goodluck Jonathan a comparu jeudi devant la Cour de justice de Lagos, plaidant non coupable des 15 charges portées contre lui, notamment des affaires de blanchiment d'argent, qui impliquent l'ex-première dame Patience Jonathan. Celle-ci aurait adressé une lettre à l'agence anticorruption réclamant 15,6 millions de dollars détenus dans des comptes gelés par l'agence. L'ancien conseiller pour la sécurité nationale, Sambo Dasuki, quant à lui, est accusé d'avoir détourné des millions de dollars de fonds alloués à la défense nationale au profit de la campagne électorale de M. Jonathan, et ce, en pleine insurrection des islamistes de Boko Haram. Robert Azibaola, un cousin de M. Jonathan, comparaît pour sa part sous l'accusation d'avoir détourné près de 40 millions de dollars de fonds publics. Les représentants de 4 entreprises nigérianes qui comparaissaient en même temps que M. Doudafa ont, eux, reconnu les faits, conduisant à un report de l'audience au 27 septembre.
Au Tchad, l'administration a été paralysée par la grève de l'Union des syndicats du Tchad et du syndicat des enseignants du Tchad, section de N'Djamena. Ce débrayage, lancé le 9 septembre dernier, porte sur le paiement intégral des salaires du mois d'août. Malgré l'instauration du service minimum, les patients sont abandonnés à leur triste sort, nous dit notre correspondant André Kodmajingar. Et la rentrée scolaire qui était prévue pour hier, jeudi, a échoué. Même les audiences au palais de justice ont été renvoyées, ajoute notre correspondant.
En Libye, les exportations pétrolières pourront très bientôt reprendre. C'est ce qu'annonce le gouvernement libyen, qui se félicite du retour au calme dans la région du croissant pétrolier, où les principaux terminaux sont tombés aux mains des autorités rivales du gouvernement d'Union nationale. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Le porte-parole des forces pro-AFTA, Ahmed Mespari, a annoncé la remise de la gestion des terminaux à la Compagnie nationale du pétrole, la NOC, une institution basée à Tripoli comme le GNA. Mais la protection des terminaux restera du ressort des pro-Haftar, a-t-il dit. Les forces du général Khalifa Haftar, liées aux autorités non reconnues basées à Beida, dans l'est du pays, se sont emparées en dimanche et mardi des terminaux du croissant pétrolier Zouetina, Briga, Ras Lanouf et Al-Sedra. Ces ports du nord-est libyen étaient jusqu'alors contrôlés par une milice ayant prêté allégeance au GNA, reconnue par la communauté internationale. L'opération du général Haftar a suscité de nouvelles inquiétudes à l'étranger. L'émissaire de l'ONU, Martin Kobler, mettait en garde contre la division de la Libye, toujours plongée dans le chaos près de 5 ans après la chute du régime de Muammar Kadhafi. Une reprise des exportations pétrolières dont les recettes représentent une part très importante du budget de l'État est cruciale pour la Libye, qui, outre la profonde instabilité sur les plans politiques et de la sécurité, fait face à une crise de liquidité.
L'ONG Human Rights Watch a tiré hier la sonnette d'alarme sur le risque d'insécurité alimentaire guettant les populations expulsées du parc national du Mont Péco dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a lancé en juillet une vaste opération d'expulsion forcée visant des dizaines de milliers de producteurs de cacao du parc.
La procureure de la Cour pénale internationale va désormais mettre l'accent sur les destructions de l'environnement et les accaparements de terres comme de possibles crimes contre l'humanité. Une décision qui pourrait devenir une mise en garde pour le monde des affaires, John Lindon.
Dans un document de politique générale sur la sélection et la hiérarchisation des affaires, Fatou Bensouda affirme que son bureau va s'intéresser particulièrement aux crimes impliquant ou entraînant des ravages écologiques, l'exploitation illicite de ressources naturelles ou l'expropriation illicite de terrains. Cette décision historique a été saluée par les militants de droits de l'homme et les écologistes qui assurent qu'elle pourrait devenir un important moyen de dissuasion pour les milieux d'affaires concernés et les politiques corrompues. Selon l'ONG Global Witness, des millions de personnes ont été expulsées de leurs terres à travers le monde et la décision de la procureure montre que l'époque de l'impunité est terminée, a affirmé sa directrice Gillian Catwell. Hélène Brady du bureau du procureur a toutefois précisé qu'il ne s'agit pas d'ajouter de nouveaux crimes à ceux déjà listés dans le statut de Rome, traité fondateur de la CPI.
Au Liberia, Festus Poké, directeur du New Democrat, a été arrêté jeudi par des policiers et détenu quelques heures avant d'être relâché. On lui reproche d'avoir reproduit un article publié par le site internet du journal britannique Daily Mail, accusant de cannibalisme le président de la Guinée équatoriale. L'Union de la presse du Libéria estime dans un communiqué que cette arrestation est un acte d'intimidation contre la liberté de la presse au Libéria.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Syrie, l'ONU espère profiter de la trêve pour distribuer aujourd'hui de l'aide humanitaire dans la ville d'Alep, ravagée par la guerre. Pendant ce temps, l'impatience croît chez les 250 000 habitants des quartiers rebelles assiégés qui manquent de tout, Jean-Roger Bion.
Une vingtaine de camions remplis de nourriture et de médicaments sont dans une zone tampon entre la Turquie et la Syrie, prêts à prendre la route immédiatement pour rejoindre Alep, deuxième ville du pays selon un responsable de l'ONU, Jan Egeland. Concrètement, les Nations Unies attendent la démilitarisation d'une route clé, celle dite de Castello, pour acheminer de l'aide dans des quartiers rebelles dans l'est d'Alep, principal front du conflit, comme le stipule l'accord américano-russe sur la trêve. Mais jeudi, l'armée du régime se trouvait toujours sur cette route, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH. Le chef du centre russe de coordination en Syrie, le général Vladimir Savchenko, a toutefois affirmé jeudi en fin de journée que l'armée avait commencé à se retirer et que ce retrait allait permettre l'acheminement de l'aide. L'émissaire spécial de l'ONU pour la Syrie, Stéphane de Mistura, a appelé le régime de Bachar al-Assad à donner sa permission finale au passage des convois.
Présidentielle américaine, la démocrate Hillary Clinton a repris hier à Greensboro, en Caroline du Nord, sa campagne électorale pour la première fois depuis la pneumonie qui l'a immobilisée pendant 4 jours. Prononçant dans la soirée un discours devant un groupe hispanique à Washington, elle a fustigé le nouveau refus de son rival républicain Donald Trump. Dans une interview au Washington Post, refus de dire si le président Barack Obama était né aux États-Unis. En réaction, le camp Trump a publié un communiqué disant que Donald Trump croit que Barack Obama est né aux États-Unis. La course est devenue très serrée selon les derniers sondages.
Toujours ici aux États-Unis, des policiers new-yorkais ont tiré 18 fois jeudi avant de maîtriser un homme qui les attaquait au hachoir, mettant fin à une course-poursuite au cœur de Manhattan en pleine heure de pointe. L'homme, un certain Akram Judeh, était apparemment en colère. Un sabot venait d'être placé sur la voiture dans laquelle il vivait, a expliqué la police. Il était hier soir hospitalisé dans un état grave.
À Columbus, dans l'Ohio, les autorités ont promis une enquête exhaustive sur la mort d'un noir de 13 ans abattu par un policier blanc. L'agent a tiré sur le jeune Tyree King après s'être lancé à la poursuite de 2 individus soupçonnés de vol à main armée quand l'adolescent a, dit-on, brandi un pistolet à air comprimé qui a été pris pour une vraie arme.
Au Brésil, l'ex-président Lula, icône de la gauche latino-américaine, a attribué hier les graves accusations de corruption à son encontre à la volonté des élites de détruire sa vie politique, et ce comme dernier chapitre à la destitution controversée de sa dauphine Dilma Rousseff. Si l'ex-syndicaliste et métallurgiste, devenu l'ancien chef d'État le plus populaire du pays, était condamné, il ne serait plus en mesure de se présenter à un troisième mandat en 2018. Et puis la Corée du Nord est prête pour la contre-attaque face à ce que son ministre des Affaires étrangères a appelé la provocation des États-Unis. Ri Yong-ho a lancé cette mise en garde aujourd'hui lors du sommet du mouvement des non-alignés au Venezuela. Elle fait suite au survol mardi de bombardiers américains dans le ciel sud-coréen en réaction à un cinquième essai nucléaire par Pyongyang. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, John Linden.
Les stocks initiaux d'iPhone 7 Plus, mis à disposition avant le lancement commercial ce vendredi de la dernière version du produit phare d'Apple, sont épuisés partout dans le monde, a annoncé le géant américain de la technologie. Soutenu par de bonnes nouvelles sur les précommandes de l'iPhone 7, l'action Apple a gagné mercredi 3,54%, portant ses gains à plus de 8% depuis le début de la semaine, et lui permettant de revenir à un pic de 5 mois. Togo Maritime, le salon international dédié à l'économie et à la sécurité maritime, se tiendra du 10 au 16 octobre 2016 à Lomé. Cette rencontre, prévue en marge du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, vise à promouvoir le potentiel sécuritaire et économique maritime du Togo et de la sous-région, voire du continent. Le Zimbabwe, à manque criant de liquidités, a décidé de lancer en octobre une nouvelle monnaie indexée sur le dollar. D'ici la fin de l'année, 75 millions de dollars seront en circulation sous forme de billets d'obligation, a déclaré le gouverneur de la Banque centrale, John Mangudia. Les nouveaux billets d'obligation imprimés en Allemagne seront financés à hauteur de 200 millions de dollars par la banque panafricaine Afreximbank.
À présent, notre page sport avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Au Burkina, démission hier à la Fédération de football.
Oui, Bertrand Kabore n'est plus le secrétaire général de la Fédération burkinabé de football. Il a annoncé sa démission hier jeudi à Sita Sangaré, le président de la Fédération burkinabé de football.
Adebayo en route pour Lyon.
C'est ce que rapporte la presse française. L'attaquant togolais s'apprête à s'engager jusqu'à la fin de la saison avec le club de la Première Ligue française. Selon le site, l'équipe Adebayo s'apprêtait hier soir à décoller de Lomé pour Paris avant de prendre un avion pour Lyon où il doit passer la visite médicale préalable à une probable signature. Il devrait s'engager jusqu'à la fin de la saison, écrit l'équipe.
Europa League, un Manchester expérimental s'incline à Rotterdam.
Oui, Manchester United, après s'être incliné en Premier League face aux rivaux de City le week-end passé, est tombé hier soir sur le terrain de Feyenoord de Rotterdam, 1-0, lors de la journée inaugurale de l'Europa League dans le groupe A. Toujours dans le même groupe, match nul entre les Ukrainiens de Zarya Luhansk et Fenerbahçe de Turquie, 1-1. Dans le groupe D, défaite du Maccabi Tel Aviv face à Saint-Pétersbourg de Russie, 3-4. Les Néerlandais de AZ Alkmaar ont fait jeu égal face aux Irlandais de Dundalk, 1-1. Dans le groupe B, Apoel Nicosie domine Astana, 2-1. Et les Young Boys de Suisse ont perdu face à Olympiakos de Grèce, 1-0. Dans le groupe F, les Italiens de Sassuolo ont écrasé l'Atlético Bilbao, 3-0. 3-2 pour le Rapide Vienne face au RC Genk, les Belges.
En cyclisme, Alberto Contador rejoindra l'équipe Trek en 2017.
Oui, le cycliste espagnol, double vainqueur du Tour de France, âgé de 33 ans, va rouler pour Trek en 2017. C'est ce qu'a annoncé hier la formation américaine, officialisant un transfert que le peloton savait imminent. Chez Trek, Contador sera accompagné de deux de ses comparses de Tinkoff, son compatriote et fidèle équipier Jésus Hernandez et le directeur sportif Steven De Jong.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'Alliance pour le salut du peuple congolais, parti politique issu de l'ex-mouvement rebelle M23, exige que le dialogue national soit réellement inclusif. Pour cette formation, la mise sur pied d'un gouvernement au terme d'un dialogue non inclusif ne résoudra pas la crise en RDC. Eddy Sango a interviewé le secrétaire général aux relations extérieures de ce parti, qui a été reçu par des sénateurs ici à Washington. Bara Vuga Salomon.
Les parties prenantes de l'accord cadre d'Addis Abeba doivent être représentées à ce dialogue, tout comme toute l'opposition congolaise doit être représentée, vu que aujourd'hui, à partir du 19 décembre, il n'y aura plus d'institutions légitimes dans ce pays. Nous devons arriver à gérer ce trou qui va exister dans le pouvoir congolais, où le pays est privé de toute forme d'institution légitime et démocratique, étant donné le glissement qui a déjà été conditionné et sanctionné par le pouvoir et l'opposition depuis 2011.
Les participants au dialogue, pouvoir et opposition, sont arrivés à un accord sur les élections et bientôt les dialogues prendront fin. Ils vont former un gouvernement d'union nationale. Est-ce que vous y prendrez part?
Il s'agit finalement de concertations formules 2014, lesquelles ont sanctionné finalement le partage de responsabilités politiques, lesquelles responsabilités sont d'ailleurs mal assumées, mal exercées, étant donné que, d'une part, on n'a jamais vu un gouvernement au Congo jusqu'à aujourd'hui qui réponde aux vrais problèmes de la population. Nous ne pensons pas d'ailleurs qu'il y aura des élections qui puissent être sérieuses et transparentes, aussi longtemps que nous avons des institutions provinciales qui sont confisquées par la majorité actuelle au pouvoir, ou le Sénat il est confisqué aussi par la majorité au pouvoir. Que veut dire élection en RDC quand nous avons des millions de personnes qui meurent dans des camps de réfugiés dans les pays voisins? Quand on a des milliers, des millions de citoyens congolais qui sont chassés des camps de déplacés intérieurs dans le Nord Kivu, des camps qui sont brûlés par les autorités, qui ne proposent aucune solution alternative aux citoyens congolais.
Vous parlez d'accord cadre d'Addis Abeba. Vous êtes ici, si l'on comprend bien, du M23. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec le M23?
Le M23 est mort. Le M23 n'existe plus. Il y a un parti qui a été créé conformément à l'accord cadre, conformément aux déclarations de Nairobi. L'ancien M23 s'est mis sous l'égide du bishop Jean-Marie Roniga. Le bishop Jean-Marie Roniga a décidé de créer le parti Alliance pour le salut du peuple. C'est un parti qui a été créé pratiquement depuis 2013, dont la reconnaissance officielle a mis du temps, parce que le pouvoir ne voulait pas le reconnaître. Mais heureusement, on a pu avoir cette reconnaissance et le parti a été reconnu. Le gouvernement de Kinshasa veut profiter du fait qu'il y a ces individus comme Bissimwa qui ne veulent pas reconnaître la légalité de l'accord cadre pour continuer à prendre les réfugiés en otage, les déplacés intérieurs en otage.
Bara Vuga Salomon, secrétaire général aux relations extérieures de l'ASP, en visite à Washington.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Au Burkina Faso, ce 16 septembre marque le premier anniversaire du projet de coup d'arrêt à la transition burkinabé que des éléments du RSP avec à leur tête le général Gilbert Diendéré ont voulu perpétrer dans le pays. Ils n'ont pas réussi parce que les populations se sont mobilisées pour leur barrer la route. Notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Wonogo, a recueilli à l'occasion de cet anniversaire les témoignages de Burkinabés qui ont vécu de près le coup d'État manqué.
Bintou Soulama, le 16 septembre 2015, il y a eu un coup d'État au Burkina Faso. Et quand je me rappelle de ce coup d'État, je vois des familles attristées, des familles vraiment en deuil. Je ne souhaiterais plus revivre ce moment-là parce que ce n'est vraiment pas agréable à vivre. C'était vraiment dur. Voir des corps étalés comme ça sur le sol et voir des tirs en l'air partout, par-ci, par-là, franchement dit, ce n'est pas agréable à vivre.
Je suis Salifou Dambélé, ministre de la Jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi sous la transition. Ce 16 septembre, il y a une année, le conseil des ministres s'est tiré un peu à sa fin quand tout d'un coup, aux environs de 14h30, 34 exactement, on a eu une irruption des militaires dans la salle du conseil. On était tous surpris, n'est-ce pas, de ce qui nous arrivait. Toute la salle a été entourée, n'est-ce pas, de militaires, et on nous a ordonné de rester sur place. Et tout d'un coup, ils ont demandé à ce que le président les accompagne, à ce que le premier ministre, le ministre Luada, les accompagne, la fonction publique. Donc les trois se sont dirigés vers la sortie, et en ce moment, on s'attendait tous au pire. J'ai fermé mes oreilles pour éviter d'entendre, n'est-ce pas, le crépitement des armes. Ils sont sortis, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes après, j'ai pas entendu de coup de feu, donc j'ai débouché mes oreilles, mais dans la salle, et les militaires ont commencé à nous dire, c'est vous les ministres de la transition, eh bien, on va vous faire tous. Donc il y a eu une panique générale dans la salle, et je pense qu'à ce jour, nous avons encore, en tout cas moi en particulier, je pense que j'ai vu une sorte de psychose lorsque j'entends une porte claquer. Quand une porte claque, je pense que je suis pas dans tous mes états, puis ça me fait penser à l'irruption, n'est-ce pas, des militaires et dans la salle. Et c'est le lieu aussi de saluer tous ceux qui se sont mobilisés pendant que nous étions enfermés, n'est-ce pas, pour faire échec, n'est-ce pas, à ce coup d'État, notamment la jeunesse.
Zerbo Blaise, le 16 septembre 2015, c'est ce jour-là que je suis arrivé à Ouagadougou, j'ai quitté la province. Et puis, arrivé vers le 18h, là, il y a un ami qui m'a appelé de Kourougou pour se renseigner que comment se passent les choses à Kossiam, à la présidence. Je lui ai dit simplement, bon, je ne suis pas au courant, mais je vais me renseigner. Je suis que, c'était chaud. J'étais découragé carrément. Ça, c'est un mauvais accueil pour moi. Quand je me rappelle de ce jour-là, ça me choque même. C'est le lendemain, j'ai entendu des tirs, les routes étaient barricadées, on avait l'anniversaire là. C'est que jusqu'à l'heure, là, il n'y a pas eu de justice pour les morts, les martyrs. C'est ce qui vraiment me bouleverse.
Joël Zoundi, journaliste reporter. En ce 16 septembre 2016, je me souviens encore comme si c'était hier, le 16 septembre 2015, lorsque je me rendais à la présidence du Faso pour couvrir le conseil des ministres. Lorsque je suis arrivé aux environs de 14 heures, j'ai vu qu'il y avait un dispositif sécuritaire particulier devant l'entrée principale de la présidence, qui a été sommé par des éléments de l'ex-RSP de rester au parking, de ne pas bouger. Et je voyais des militaires quitter le camp, l'ex-camp, le camp du RSP et qui regagnait l'entrée principale de la présidence. Ce dispositif particulier, ce jour-là, m'a beaucoup intrigué. J'ai compris qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui se passait, mais je ne savais pas à l'intérieur, mais je ne savais pas quoi exactement. Et par réflexe, j'ai sorti ma caméra, j'ai déposé sur la moto et j'ai lancé l'enregistrement. C'est alors que deux militaires se sont approchés vers moi. Ils étaient lourdement armés. Ça m'a fait froid au dos, surtout qu'ils avaient une arme pointée sur moi. Ils m'ont demandé de remettre mon matériel de travail, c'est-à-dire la caméra.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
En Libye, le général Khalifa Haftar a défrayé la chronique ces derniers jours avec la prise de contrôle des terminaux pétroliers du pays. Qui est-il et que veut-il ? Question posée par Anastasie Toudiech à Hélène Bravin, chercheur associé à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe à Paris.
Ce général est considéré aujourd'hui comme incontournable puisqu'il a pris d'assaut ce week-end les ports pétroliers et les champs pétroliers de l'Est qui étaient détenus par Ibrahim Jadran, un milicien qui, dès la mort de Kadhafi, s'est installé à l'Est. Et c'est d'accaparer des terminaux pétroliers. Aujourd'hui, ce général est désormais incontournable, ne serait-ce que parce qu'il a entre ses mains une manne pétrolière très importante d'environ 600 000 barils jour.
Qui sont les alliés du général Haftar ?
Les tribus de l'Est qui se sont regroupées derrière lui depuis le début. Il avait réussi aussi à négocier avec des anciens Kadhafis de Sirte.
Quelles sont les revendications du général Haftar ?
Il demande déjà à ce qu'on le reconnaisse comme chef d'état-major, chef de l'armée libyenne, ce que le gouvernement al-Sarraj a du mal à reconnaître depuis sa constitution. Il demande par ailleurs à ce que les pouvoirs de nomination du chef de l'armée et de la banque centrale, ainsi que la banque centrale de la NOC, la National Oil Company, reviennent, comme cela a été le cas auparavant, entre les mains du président du Parlement de Tobrouk. Parce que selon la déclaration constituante de la Libye, ces pouvoirs-là étaient initialement entre les mains du président du Parlement, mais ils sont passés entre entre les mains de Al-Sarraj. Il y a un fameux article 8 sur lequel personne n'est d'accord, donc il faut trouver un consensus. Ensuite, Haftar demande l'intégration des milices de Tripoli dans l'armée nationale. Il ne souhaite pas que des milices gardent le gouvernement. Une des dernières conditions, que le nouveau gouvernement soit validé par le Parlement de Tobrouk. Alors, est-ce que Sarraj va y répondre? Ça, c'est la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, sur le terrain, Haftar a gagné des points. Mais alors, politiquement, est-ce qu'on va aller vers une réconciliation? Alors, sur le plan du pétrole, il y a des projets d'unification des deux NOC qui ont été relancés depuis deux jours. Donc là, c'est bon signe. Mais alors, est-ce que politiquement, les choses vont se faire?
On sait que le général Haftar s'est rendu à N'Djamena mardi dernier, à l'invitation du président tchadien Idriss Déby.
Oui.
Est-ce que c'est une bonne nouvelle?
Écoutez, il commence petit à petit à avoir des reconnaissances.
C'est un signe de reconnaissance pour vous?
Enfin, à peine deux jours après la prise d'assaut des puits, des ports et des champs pétroliers de l'Est, bon, oui, quelque part, ça veut dire, bon, soyez le bienvenu.
La Libye est aujourd'hui dans un équilibre plus que précaire. Qu'est-ce qui pourrait faire peser la balance vers la poudrière ou vers l'apaisement?
Aujourd'hui, on est dans une phase où les acteurs se calment, où ils évaluent effectivement leurs forces. Il faut tout de suite enclencher un dialogue pour effectivement donner une chance à ces acteurs, qu'ils soient aujourd'hui forts ou affaiblis, de dialoguer.
Hélène Bravin, chercheur associée à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe à Paris. Présidentielle américaine 2016, la campagne repart de plus belle après le retour de la démocrate Hillary Clinton de son congé maladie occasionné par une pneumonie. L'ancienne secrétaire d'État, qui s'emploie à regagner le terrain perdu, est passée à l'offensive contre son adversaire républicain Donald Trump. Le point avec Timothée Donangmaï.
S'exprimant jeudi à Greensboro, dans l'État de Caroline du Nord, la candidate démocrate Hillary Clinton a dit avoir mis à profit son congé maladie pour réfléchir sur son plan pour le pays. Elle a réitéré son engagement à œuvrer en faveur des femmes et des enfants.
J'ai lutté pour les enfants emprisonnés en compagnie d'adultes, des enfants négligés et dont on a abusé, des enfants ne pouvant pas obtenir une assurance maladie à cause de maladies préexistantes, les enfants handicapés.
Critiquant son adversaire républicain Donald Trump, la candidate démocrate a assuré qu'elle ne sera pas aussi flamboyante que lui. Elle a cité la publication par Trump de son bilan de santé dans une émission télévisée comme une preuve de la tendance du républicain à faire le show. Madame Clinton a dit qu'elle, au contraire, préfère se concentrer sur les détails des mesures politiques.
Pour la première fois, le candidat républicain Trump a présenté un plan détaillé des réformes économiques qu'il entend engager s'il est élu à la Maison-Blanche, Timothée.
La pièce maîtresse de cette réforme est une réduction des impôts de l'ordre de 4 400 milliards de dollars sur 10 ans. Selon Trump, ce manque à gagner sera compensé par la croissance économique, les nouveaux investissements et la réduction de la réglementation, notamment celle concernant l'environnement, a expliqué le candidat républicain jeudi au Club économique de New York. Donald Trump entend ainsi supprimer l'Agence américaine de protection de l'environnement, dont les directives écologiques constituent, à ses yeux, une entrave à l'industrie américaine. Libérée de ses fardeaux, l'économie américaine fera de grands bonds en avant, selon lui. Sur les 10 prochaines années, notre équipe économique estime que sous notre plan, l'économie croîtra en moyenne de 3,5% et créera un total de 25 millions de nouveaux emplois, a promis le candidat républicain. Ses adversaires et certains analystes pensent que son plan économique alourdira au contraire le déficit budgétaire américain et nuira à la croissance économique.
Dans l'Amérique et vous, ce vendredi, nous parlerons de la santé des présidents et des candidats à la présidence aux États-Unis. La candidate démocrate Hillary Clinton et le républicain Donald Trump ont publié des documents sur l'état de leur santé. Que vous inspire cette actualité? Qu'en est-il des Africains et de la santé de ceux qui les dirigent? Vos commentaires et réactions sont attendus en direct et sur Facebook. Rejoignez-moi, John Lydon, ce vendredi à 19h, temps universel, sur VOA.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albutson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Setoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.